Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Judaïka Strasbourg pour une émission spéciale. On va parler évidemment de l'événement de ces jours, c'est la fête de Shavuot. Et pour en parler avec nous, le rabbin Aaron Eliashev. Bonjour monsieur le rabbin.
Bonjour.
Vous êtes toujours responsable de Amira ou plus ou moins d'un?
Ça c'est une sacrée question. Ça.
Ouais.
Oh oui, toujours encore.
Toujours rabbin d'Amira. En deux mots, c'est quoi Amira? C'est une synagogue qui se trouve en haut de la synagogue. C'est quoi? C'est plutôt ashkenaz, plutôt sfarad, plutôt religieux, plutôt moins religieux?
C'est plutôt ashkenaz, mais les sfaradim sont les bienvenus.
Voilà, ça c'est un beau mot. Alors on va commencer, monsieur le grand rabbin, par parler de Shavuot. Et quand on regarde dans la Torah, toutes les fêtes, Pessah, Sukkot, il y a une date précise. Et dans Sukkot, aucune date précise. On dit qu'il y a un décompte à faire de 49 jours. Pourquoi on n'a pas une date précise aussi à Sukkot? C'est quoi le souci?
Ben, en réalité, comme vous l'avez dit, il y a une date précise. Mais cette date précise, elle
c'est
est...
Pessah.
Hein, voilà, cette date précise, elle est liée à Pessah. Et comme un peu, c'est d'une certaine manière la fin de Pessah, le pourquoi de Pessah. Donc, on a fixé la date de. On a fixé ce moment pour dire, voilà, la date, c'est tant de jours après Pessah.
Ça a un rapport avec le conte du Homer ou c'est pas du tout comparable?
Oui, on ne peut pas nier que ça. C'est ça a évidemment un rapport avec le Homer et on a voulu plutôt mettre en exergue les semaines, les 7 fois 7, les 49, etc., comme date.
C'est une fête religieuse ou c'est une fête agricole?
Ben, c'est une fête qui est, comme toutes les fêtes Sukkot et Pessah, qui a un lien avec la terre d'Israël. Mm-hmm. Parce que la terre d'Israël, c'est quand même aussi la raison de la sortie d'Égypte, mm-hmm. pour que vous soyez en Eretz Israël, où je serai pour vous... un Elohim en Eretz Israël, donc l'héritage de Abraham, Isaac, Jacob. Donc la terre d'Israël, elle est et la manière dont on doit être en Eretz Israël est aussi liée, bien évidemment, à Pessah et surtout parce que pendant toute cette période, la période de la manne dans le Chumash, et l'équivalent de la manne, c'est Eretz Israël, qui est l'endroit qui va nous nourrir et nourrir le monde aussi.
Alors on va arriver donc à Shavuot, et beaucoup de gens ont l'habitude le premier soir d'étudier toute la nuit, suivi évidemment de la prière de Shacharit. C'est quoi? C'est un minhag, une halakha? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on peut s'en passer? C'est quoi la réponse?
C'est pas obligatoire, c'est un minhag. On peut s'en passer, oui, d'une certaine manière, c'est vrai qu'on peut s'en passer. Mais
c'est-à-dire, si on ne le fait pas, il n'y a pas d'incidence particulière, c'est ça la question?
Exactement, d'accord. Vous avez tout à fait raison. Okay. Il n'y a pas un commandement positif, ni midrabanan, ni midoraita, d'étudier le soir de Shavuot.
On peut quand même conseiller, c'est vraiment un événement assez particulier quand on passe la nuit à étudier et qu'on suit Shacharit au moins une fois dans sa vie, pour voir ce que ça fait. Alors, si je résume, cette fête de Shavuot, est-ce que je me dis qu'il n'y a qu'une seule mitzvah, c'est écouter les 10 commandements après Zéhou?
Oui, c'est vrai que la Kriyat Torah est importante. Voilà, vous pourriez me poser la même question sur les Aseret HaDibrot. Si on n'a pas écouté les Aseret HaDibrot, qu'est-ce qu'on a transgressé? Qu'est-ce qu'on a fait probablement Voilà, par rapport, c'est une vraie question, la Aseret HaDibrot, est-ce que, il y a toujours une crainte, si vous voulez, pour expliquer un peu mieux, il y a toujours une crainte autour des Aseret HaDibrot, qu'on pense qu'il n'y a dans la Torah que les Aseret HaDibrot, et qu'on se résume, on résume la Torah aux Aseret HaDibrot. C'est pour ça qu'il y avait ce minhag, très longtemps, institué, de lire les Aseret HaDibrot à la fin de la tefila, de toutes les tefilotes, et on a annulé ça, parce que les gens avaient tendance à penser qu'il n'y a que la Serta di Bratteo. On a un peu ce même problème ici, sur le statut de cette kriya et sur la valeur à donner à cette kriya.
À cette lecture.
Exactement.
Traduit.
À cette lecture.
Vous dites à Serta di Bratteo, si je traduis par les 10 commandements, ça vous dérange un peu?
Non. Non.
On peut traduire comme ça.
Oui, enfin la traduction c'est 10 paroles parce que...
Ah, 10 paroles, pas 10
voilà, parce que l'essentiel c'était d'entendre. Le contenu était une chose, le contenu avait son importance, mais c'est la question, et pourquoi cela et pas d'autres, d'accord, c'est un sujet, mais surtout ce qui est préoccupé et ce qui était important pour l'Ibn Israël, c'était est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu entend Hachem lui dire qu'il faut faire ceci ou cela.
C'est en train de nous dire que peut-être que Moshe, Ras Shalom, aurait inventé.
Oui, tout à fait. Ils n'étaient pas... ça leur semblait que Dieu parle et que Dieu dise il faut faire ceci, il faut faire cela.
Il y avait quand même deux tables de la loi. Il fallait quand même que ce soit marqué quelque part.
Voilà, mais justement, les tables de la loi sont venues après. On se demande même, d'une certaine manière, à quoi servent les tables de la loi. C'est pas très... très... Ça n'a pas l'air d'être fondamental, l'étape de la loi. Ce qu'elle a d'être c'est l'étape de la loi en tant que témoignage chose a été entendu.
On dit souvent que la Torah Shebaalpé et la Torah Shebirtav sont indissociables. La Torah écrite, la Torah orale. C'est un principe que vous n'adhérez pas?
On y adhère bien sûr, mais c'est l'ordre qui est important. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale, ou il y a la Torah orale et la Torah écrite?
Et vous dites quoi?
On voit bien qu'il y a la Torah orale, puisque avant les...
Avant?
Bien sûr, avant. D'accord. Avant, puisque d'abord on entend, et après on fait un objet, et l'objet, les louchot, viennent seulement après, pour dire, voilà ce qu'on a entendu. Et c'est pas qu'on a écrit, et qu'à partir de cet écrit, on se met à entendre. D'abord on entend, et
on
donne un écrit, et l'écrit, à partir de l'écrit... Le but du jeu, disons, si je puis dire, c'est de réentendre à partir de l'écrit. Mais l'écrit n'est qu'un support et l'essentiel, c'est entendre.
Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les Israël n'ont pas entendu les 10 paroles par leurs oreilles? C'était quoi le but d'Hachem? C'est de montrer son autorité, en tout cas sa façon de montrer qu'il est un grand Dieu?
Disons que un problème assez délicat qui est que, autour de justement se entendre la Torah, étudier la Torah, c'est que tout le monde n'est pas capable d'entendre, et chacun, parce qu'on voit, dit Moshe Rabbeinu entend.
Pourtant, on l'a demandé.
Hein?
Pourtant, tout le monde l'a demandé, que Dieu descende pour donner la Torah.
Exactement.
C'est une demande.
Voilà, c'est un peu comme s'il disait, voilà, puisque Moshe. D'abord, on ne sait pas si Moshe entend vraiment. Ensuite, on ne sait pas qu'est-ce qu'entend Moshe. Il peut entendre, mais des ordres, pas des ordres, etc. Donc nous, on veut entendre. Et s'il lui entend, lui, Moshe Rabbeinu, voilà, on le voit fonctionner avec nous, il prend son petit déjeuner, on discute avec lui, etc. Donc si lui entend Dieu, ce qui pour nous, Bnei Israël, est un peu difficile à accepter, si lui l'entend, pourquoi nous, on ne l'entendrait pas? Et donc...
Il y a une réponse à cette question.
Oui, c'est laquelle?
Je vous pose la question.
Ah oui, c'est ça la grande histoire, c'est que on voit que Moshe entend, il le voit, c'est-à-dire il voit que c'est des ordres.
Mais quel intérêt de pas faire entendre les 10 paroles au Israël? Ah non, ça je comprends pas.
Voilà, non, ce qu'on voulait, c'est on veut leur faire entendre, et eux disent, cette phrase, ils disent entendre. Finalement, c'est pas. D'abord, on voit que c'est vrai, et ensuite, on voit que c'est pas si simple que ça. On voit que entendre, c'est quelque chose, entendre la Torah, c'est quelque chose qui a une dimension, entre guillemets, mortifère. Ça veut dire qu'il faut pouvoir supporter d'entendre sans mourir. Et donc, c'est ça tout le problème. Et donc, Moshe Rabbeinu, lui, entend et supporte d'entendre, et eux, ils ne supportent pas. Et donc, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de, qu'ils ne peuvent pas faire, justement.
Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne sait pas ce que Moshe a entendu. Ça veut dire qu'il aurait pu inventer les 10 commandements tout seul?
Oui, ça veut dire...
Oui.
Cette idée, oui, bien sûr. Cette idée, il y avait deux problèmes. Il y avait le contenu de ce que disait Moshe Rabbeinu, et le fait même que Dieu parle à un homme, ça semblait un peu saugrenu, quoi. Dieu parle.
Ah, mais Moshe est monté dans les cieux, il a eu l'habitude, non?
Oui, mais eux, ils sont sceptiques. Ah. Ça veut dire, c'est extrêmement difficile, intellectuellement, de penser que Dieu parle à un être humain.
Vous avez un vrai doute sur ça?
Ben non, puisqu'il y a eu le Sinaï.
Ah,
j'ai
d'accord.
Plus de doute.
Ah. Ok, alors, on parle de la fête de Shavuot. Moi, j'ai toujours appris que les fêtes, Dieu, etc., étaient là tout le temps. Pourquoi on est obligé, pratiquement, de faire une fête comme la fête des mères, la fête des pères, ou je sais pas quoi? Comme si on avait oublié, entre-temps, la présence de Dieu et de sa Torah.
Disons que à chaque fois qu'il y a une fête, que ce soit ça, Soukhot, comme si on disait, voilà, on n'a pas oublié la sortie d'Égypte et on parle de la sortie d'Égypte.
On le dit tous les jours. Hein.
Voilà, on le dit tous les jours. Donc pourquoi Pessah? Soukhot, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un peu compliqué d'expliquer ce qu'est exactement la fête de Soukhot. Le problème des nuées de gloire, de la Shrina, etc., c'est un peu plus difficile à expliquer. Mais et Shavuot aussi, d'après votre question, on est toujours en train d'étudier, donc finalement pourquoi? Oui, mais le problème c'est que Shavuot, c'est comme pour Pessah, c'est qu'on vient expliquer, on vient réexpliquer ce dont on parle. C'est-à-dire, c'est vrai que tous les jours je dis je suis Hachem qui t'ai fait sortir d'Égypte.
Okay, mais tous les jours on étudie la Torah.
Et tous les jours, on étudie la Torah.
Le fait de recevoir
voilà,
tous les jours, jour particulier,
tout à fait.
C'est-à-dire que les autres jours ne sont pas aussi intéressants.
Non, ça veut dire qu'à un moment, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a beau dire « je suis sorti d'Égypte », on ne sait plus ce que ça veut dire. Pourquoi? C'est-à-dire, on ne se comporte pas au quotidien comme ce qu'on est censé avoir compris une semaine, pendant la semaine de Pessah, et pendant quelques jours après Pessah, on redéfinit ce que ça veut dire être sorti d'Égypte, surtout la question, est-ce que je fais partie des gens qui seraient sortis, qui ne seraient pas sortis, etc. Donc on se repositionne et on réfléchit à ce que ça signifie, que les choses... La même chose pour la Torah. La Torah, on étudie la Torah, mais on oublie que la Torah, c'est entendre, écouter à Kodesh Baruch Hu. C'est-à-dire, on peut étudier machinalement, on peut étudier pour des raisons sociales, on peut étudier pour plein de raisons. Mmh. Mais à un moment, la question de l'étude est qu'est-ce que l'étude se pose? Et donc, des moments comme Shavuot, des moments...
Mais pour se poser la question.
Permettent de se repenser ce que signifie l'étude de la Torah.
À Shavuot, il y a une habitude, c'est celle de consommer des produits lactés. Vous pouvez nous expliquer, il y a une symbolique, il y a quelque chose qu'on peut dire dessus?
Bon, il y a plusieurs explications qui sont données sur ça. L'explication la plus, la plus liée à Shavuot, c'est que à Shavuot, il y a un moment très important qui est qu'on amenait un corban à Omer, avec deux pains. Et pour bien signifier qu'il y en a deux, on en fait un qui est...
Olé, exactement.
Ah. Un qui est chalavi, olé, et un qui est basari, un qu'on mange avec un repas chalavi, un qu'on mange avec un... Et c'est censé refaire penser à cette histoire des jetés à l'échem, des deux pains qui sont importants.
Parce que par exemple, mon papa m'a raconté qu'en Algérie, il n'y avait pas de repas lactés, c'était souvent des repas de viande, parce que c'était une fête.
Tout à fait, exactement. Alors, les gens qui font un repas lacté s'arrangent aussi pour manger un petit morceau de viande
après.
Un petit morceau de viande après.
Il faut... pas oublier de dire qu'on doit se rincer la bouche.
Exactement.
Avant de passer à table.
C'est pour ça que des fois, on préfère ne pas le faire.
Quand on parle de Shavuot, on a l'impression que cette fête, elle passe rapidement. C'est 15 jours. C'est pas très important, en fait. C'est quoi, véritablement, l'importance de ce jour de Shavuot dans le calendrier complet des fêtes? Trois fêtes de pèlerinage, Soukhot, Pessah et Shavuot. Donc, ça veut dire qu'il y a une importance quand même particulière.
Je pense que ce que tu veux dire, c'est que dans Soukhot et dans le côté ça passe vite, d'abord ça passe 7 jours, et il n'y a pas d'éléments factuels dans la fête de Shavuot, par exemple. À Pessah, on sait qu'au moins il y a les matzot pour se dire on fait quelque chose, quoi. À à Soukhot, il y a la Souka, le Loulav, donc on a l'impression qu'on a fait quelque chose. Mais à Shavuot, ça passe, on n'a rien fait. On a écouté à Asseret HaDibrot, on a un peu étudié, on a surtout, on espère bien manger, etc. Ouais. Effectivement, c'est une discussion sur les fêtes, c'est un peu partagé, mais là, c'est vraiment, il faut la notion de pour vous, faites pour vous, et manger, faites des bons repas de Yom Tov, elle est plus importante à Shavuot. Mais donc, on se demande finalement, il y a une espèce de frustration, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et d'autant plus, on se le dit, c'est qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet à Shavuot. Donc, sans objet, d'accord, il n'y a même pas la Torah en tant qu'objet. Puisque finalement...
Donc, l'objet, c'est l'oulav à Soukhot, etc.
Exactement. Il n'y a pas d'objet où j'ai dit, voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait à Shavuot? Ben, j'ai entendu, maximum, j'ai entendu à Asseret HaDibrot, où j'ai étudié. Mais disons qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, comme vous savez, que je ne ferai pas pendant l'année. Quoi. Non, et là, je ne fais pas Soukhot, et je ne fais pas Pessah, je ne mange pas des matzot, etc. Pendant l'année. Donc, effectivement. Et cette question est renforcée par le nom même de la fête. C'est que les autres fêtes, c'est Chag HaSoukhot, on dit c'est la fête de cet objet qui est la Soukha, ou sur Pessah, ou Chag HaMatzot, sur les Matzot. Et dit Chag HaShavuot, sur le jour même que Shavuot, on dit c'est la fête des semaines. Or, le jour de Shavuot, il n'y a pas deux semaines. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les semaines, c'est pas quelque chose qui est un objet, d'accord ? Un compte de semaines, de jours, c'est pas un objet. Donc il y a pas d'objet, et pire que ça, c'est pas seulement qu'il n'y a pas d'objet, mais en plus, le jour même de Shavuot, je dis c'est la fête des semaines qui sont un passé, parce que c'est la fête de ce que j'ai fait avant. Donc ça renforce notre question qu'à Shavuot, il n'y a absolument rien. Il n'y a ni objet, ni le nom, ni le nom dit quelque chose que je fais aujourd'hui.
Ça veut dire que sans objet, le peuple juif n'arriverait pas à réaliser une fête?
Justement, c'est votre question, c'est de dire, au moins les autres, on a un objet. Ici, on n'a rien. On n'a rien.
La question, est-ce qu'on est obligé d'avoir un objet pour faire une fête?
On a l'impression qu'il faut avoir un objet, sauf à Shavuot.
Non, mais est-ce que c'est indispensable d'avoir un objet, selon vous, pour faire une action envers Hachem? On ne devrait pas, normalement.
Si, parce que nous, on est des gens plutôt, des gens qui avons besoin. On est dans ce monde-là, azé, ça veut dire c'est toujours, on peut pointer des objets. On est dans un monde où on a besoin d'avoir des réalités devant nous. Même à Kosh Baruch Hu, d'une certaine manière, on dit dans le Kodesh HaKodashim, il y a un malach qui représente un carou, un ange qui représente Hachem, un ange qui représente le peuple juif. Au Beit HaMikdash, il y a des représentations d'aigles, de lions, de taureaux. Ça veut dire, on est la maison de Dieu, on est dans un monde que de représentations. Donc, arrive la fête de Shavuot, et là, on peut même pas dire, au moins si on avait disait que c'est la fête des louchot, c'est-à-dire des tables. Des tables, voilà, on aurait un objet, et donc on mangerait des tables. voilà, des tables. Des tables chalavi, une table bassari, et donc on se dirait, voilà, on a fait quelque chose. Voilà, il y aura un commandement, et là, il n'y a rien. Donc la question que vous posez est très bonne, c'est qu'est-ce qu'on veut exactement à Shavuot? Et d'où la frustration, on se dit, mais finalement, de quoi on parle? Et donc on répond à cette question.
Allez-y, je vous la réponds.
Voilà, et donc on répond à cette question, de dire que à partir du fait que c'est le jour de Shavuot, on dit la fête des semaines. Zman Matan Toratenu, la fête des semaines. Oui, mais le jour de Shavuot, il n'y a pas de semaine. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est la fête qui est l'aboutissement de mon désir d'entendre à Kosh Baruch Hu. Mon désir d'entendre. Et l'étude de la Torah, ça vient expliquer ce qu'est l'étude de la Torah, c'est essentiellement le désir d'entendre à Kosh Baruch Hu. Et la Torah écrite est un support pour entendre Akosh Bokhu. Donc, c'est normal que j'ai rien, parce que je n'ai que quoi? Je n'ai que mon désir.
D'accord.
Et donc, je ne peux pas matérialiser mon désir. C'est quelque chose qui n'est pas comme... c'est pas un objet. Mon désir n'est pas un objet. Mais il est là ou pas. C'est ça, la frustration. Il est là ou pas le jour de Shavuot.
Alors, la question que je vous posais pour terminer notre entretien. Finalement, Shavuot, c'est quoi? C'est une fête joyeuse? Est-ce qu'on doit dire... super, c'est la fête, on va manger, on va boire, on va faire la fête, ou est-ce qu'on veut dire, quand même, on reçoit la Torah et Et là, il y a un intérêt à bien se tenir. Comment vous considérez la chose ?
C'est une excellente question. C'est à la fois une tragédie. Une tragédie.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que d'une certaine manière, j'ai accepté quelque chose qui, si j'avais regardé vraiment ce qu'il
j'aurais
en était...
J'aurais pas accepté.
Ben, j'aurais pas accepté. Et c'est quelque chose qui m'amène directement à une forme de destruction. Donc, à la fois, c'est une tragédie. Et à la fois, c'est une tragédie, mais d'une certaine manière, acceptée avec amour. C'est-à-dire que la Gemara explique que pourquoi est-ce qu'on a accepté sans regarder finalement ce qu'il en était, et probablement on aurait refusé, parce que donc ce fameux Naaseh Benishma, c'est-à-dire on fera et on verra après le contenu, une version de Naaseh Benishma. C'est pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas regardé le contrat lui-même, on n'a pas regardé la Torah, on a regardé ce qui est propre à qui donne le contrat. Et on s'est dit, puisque c'est Akosh Bohu qui le donne, même si c'est absolument infaisable, même si c'est quelque chose qui est impossible à faire, disons, de toute manière, puisque Akosh Bohu l'a donné, il doit sûrement y avoir
quelque chose de bien.
Des jokers. Et c'est Rava qui explique ça. Il dit, on a fait ça par amour, c'est-à-dire, on a vraiment dit. Quoi qu'il en coûte, on accepte. On a fait le quoi qu'il en coûte.
Avant Macron.
Voilà. Ben. Exactement.
Alors, c'est bizarre ce que vous dites, parce que finalement, est-ce qu'on peut comprendre un peuple qui dit Naaseh Benishma ? C'est une phrase quand même qui est extraordinaire. Je fais et je comprends un peu. En général, dans la religion, c'est un peu différent. On comprend et après on fait. C'est quoi la transversale ?
Parce que c'est pas exactement la question du comprendre, c'est la question de faire, et ouais. Quel que soit ensuite ce qui me sera demandé. Quel que soit, je ferai, quel que soit ce qui me sera demandé. Ah, mais même si c'est impossible, oui, je ferai même si c'est impossible.
D'accord. En tout cas, Rabbin Aaron Eliashef, merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense que cette émission va pouvoir être diffusée sur Internet pour entendre cette fois vos explications. Merci à Thomas pour la réalisation technique. À vous tous et à vous tous. Moadim Nitsi Chag Sameach. Comment on dit ?
Chag Sameach.
Merci beaucoup.